Jusqu'à 20h, vous écoutez le Grand Journal du Soir sur Europe 1. Et dans l'actualité, Wendy Bouchard, 3239 personnes tuées sur les routes l'an passé. Un chiffre communiqué aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur.
Bonsoir Emmanuel Barbe.
Bonsoir.
Vous êtes délégué interministériel à la sécurité routière. 3239 morts. On pense d'abord aux familles concernées par ces drames. Ce chiffre est beaucoup trop élevé, dans l'absolu, mais historiquement bas, a précisé Christophe Castaner. C'est exact pour vous, selon vos relevés?
Alors, en fait, c'est en métropole, oui. Parce que malheureusement, on a fait une mauvaise année en Outre-mer, mais en métropole, c'est la première fois que c'est aussi, que c'est l'année la moins meurtrière. Mmh. C'est-à-dire que depuis qu'on mesure la statistique...
Depuis les années 50.
Voilà, et bien, c'est la première fois qu'on a un chiffre à ce niveau-là. Dire qu'il est bas, ce serait obscène, parce que c'est quand même considérable.
Oui.
C'est presque 9 morts par jour. Mais enfin, comme on lutte jour après jour pour essayer de le faire baisser, on doit s'en réjouir. Et l'autre élément de bonne nouvelle, si vous voulez, c'est que l'an dernier, on avait déjà fait la meilleure année. Et le point de référence, c'était 2013, mais entre 2000, où on avait dépassé un peu, on avait été un peu meilleur. Mmh. Mais depuis 2013, il y a deux phénomènes majeurs. D'abord, 7% de trafic en plus, donc beaucoup plus de risques sur les routes.
Bien sûr.
Et puis, l'émergence absolument extraordinaire du téléphone portable, du smartphone, en fait, qui est un facteur de complication pour ces politiques très, très important. Donc, il y a des déceptions. Outre-mer, c'est pas bon. Et puis, ça reste trop. Mais il y a une sorte de satisfaction et beaucoup de détermination. C'est ce qu'a affiché le ministre ce matin.
9 morts de moins, en réalité, entre 2019 et 2018. Peut-on considérer, comme le soulignait le ministre de l'Intérieur, que c'est le fait de politiques plus volontaristes? C'est le terme qu'il a employé, notamment le passage des tronçons secondaires de 90 à 80 km/h. Est-ce que vous êtes capable, statistiquement, d'analyser déjà la conséquence de cette mesure?
Alors, bien sûr. Alors, c'est juste un tout petit peu compliqué à comprendre. J'espère je vais être clair. C'est-à-dire que quand on essaye de prendre un réseau dont on a baissé la vitesse,
oui,
on a pris 5 années de moyenne quand ce réseau était à 90 et après on a regardé l'effet que ça a donné quand il est passé à 80. Et donc, si on prend la première année de la mesure, c'est-à-dire de juillet 2018 à juin 2019, on a eu 209 morts en moins sur ce réseau. Et donc, on peut l'attribuer à la baisse de vitesse, tout simplement parce que la baisse de vitesse, ça joue sur toutes les causes d'accident. Un exemple simple, personne est saoule, elle fait une embardée. Si statistiquement on roule moins vite, eh bien on a plus de chances de l'éviter. Et si on peut pas l'éviter, le choc sera moins fort. Donc c'est comme ça que ça marche. C'est un effet de grande masse statistique. Et donc on a sur 12 mois 209 tués en moins. Et si on prend maintenant la mesure sur 18 mois, mm-hmm, c'est 336 morts en moins sur nos routes par rapport à cette moyenne de 5 ans. Donc, il faut essayer de pallier ça au résultat de l'année. On a moins 9 morts.
Oui.
En revanche, ce qui est intéressant cette année, c'est qu'on a confirmé dans le sens où les chiffres n'ont pas remonté.
Donc ça,
l'effet de 80 continue à fonctionner.
J'entends, vous êtes capable de le faire parce que vous avez évidemment une carte de l'accidentologie, une carte des accidents mortels où ces tronçons apparaissent plus que les autres, ça se voit aussi comme ça, Emmanuel Barbe.
On distingue les accidentologues, hein, les scientifiques,
oui,
distinguent les mortalités par type de réseau, et donc on a compté sur le réseau qui est passé à 80, c'est comme ça qu'on fait ces calculs. Alors ensuite, il y a toujours des personnes qui viennent contester les chiffres. Aujourd'hui, tout chiffre est contesté. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est des chiffres qui sont élaborés de façon indépendante du gouvernement. Si j'avais pu faire une pression, je serais fait meilleur.
Mmh.
On est un peu en deçà, on est même assez loin de l'objectif initial, parce qu'il y a eu un épisode dramatique à la fin de l'année 2018, c'est des destructions massives de radars, vraiment très très importantes, qui ont eu un impact sur les vitesses et les comportements. Ce qui fait que les baisses de
impact
vitesse
moyenne... Impact immédiat que vous avez constaté?
Ah oui, c'est-à-dire que vous avez eu... je vais vous prendre un exemple assez étonnant. Vous savez qu'un radar, quand on le bâche, il continue à mesurer les vitesses.
Mmh.
Eh bien, ce qu'on a constaté à ce moment-là, en décembre et en janvier, c'est qu'il y avait 4 fois plus d'excès de vitesse constatés. Donc ça a un effet assez immédiat. Et puis on a eu le sentiment un moment que ça a même eu un effet un peu carnaval, quoi. C'est-à-dire que ces destructions de radars entraînaient les retours de comportements qui n'existaient plus. Par exemple, sur l'autoroute, des gens qui collent, et à un moment où beaucoup de radars étaient abîmés. Donc, ça a eu un effet, et du coup, on a quand même le 80, une belle victoire pour essayer de lutter quand même comme une mortalité qui reste inacceptable. Je veux dire que ça reste,
oui,
trop élevé.
3239 morts, ça reste en effet, évidemment, trop élevé, Emmanuel Barbe. Mais si je vous pose la question des 80 et des 90 km/h, c'est qu'une actualité nous rattrape aujourd'hui. Après la Haute-Marne, après la Seine-et-Marne, après l'Hérault, après les Deux-Sèvres, après la Charente, nous avons la Corrèze et le Cantal qui décident, par l'intermédiaire de leur commission départementale de la sécurité routière, de repasser leur route de 80 à 90 km/h. Votre réaction d'abord immédiatement à cette logique, à cette position, a priori légale, hein, puisque encadrée.
Alors, c'est absolument légal, il y a une procédure à respecter et ensuite on peut prendre cette décision. Moi, je voudrais plutôt parler des attendus de cette décision. Le 80 km/h, on a fait des études qui sont en ligne et qui montrent qu'on perd une seconde par kilomètre sur des trajets moyens que nous avons faits. Donc, en remontant les vitesses, on peut espérer gagner une seconde par kilomètre puisqu'on les a perdues en descendant. Ça augmente le risque. Un risque, ça ne veut pas dire qu'il se réalise. C'est-à-dire, heureusement d'ailleurs, parce que toutes les fois qu'on prend des risques, si on avait un accident, ça serait dramatique. Donc, on augmente le risque, et tout ça a un coût, parce qu'évidemment, il faut mettre des panneaux. Donc, une décision qui augmente, qui fait gagner une seconde par kilomètre, qui fait dépenser de l'argent et qui augmente un risque, elle est difficile à prendre. À mon avis, il faut la prendre uniquement dans certaines conditions d'aménagement des routes. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez, au moment du 80, on avait beaucoup vanté le Danemark qui, lui, remontait les vitesses. En réalité, il avait remonté 120 km avec des conditions extrêmement sévères sur le réseau. Pas doublé, donc des lignes blanches, et de la place sur les côtés. Ce sont les conditions qui ont été énoncées par des experts et ce sont celles qu'adoptent les préfets quand ils donnent leur avis sur cela.
Mais ils veulent prouver, ces présidents de département, qu'il n'y aura pas plus d'accidents si on élève la vitesse. C'est un acte politique. Vous savez bien que cette mesure fâchée, elle a été portée par Édouard Philippe. Ils veulent démontrer le contraire, quelque part.
Écoutez, moi, je trouve il y a une chose qui est absolument incontestable, aussi bien que la Terre est ronde, c'est que quand on roule moins vite, eh bien, il y a moins d'accidents. Et d'ailleurs, en France, ce qui s'est passé par rapport aux 80 démontre le théorème scientifique et les analyses qui ont été faites de par le monde occidental sur le fait que baisser les vitesses moyennes, surtout sur ce type de réseau, fait baisser le nombre de morts. Donc faire une expérimentation quelque part sur le risque d'autrui, c'est un peu surprenant, mais ça leur appartient. Ah bien sûr, ça va être très suivi, et je pense localement aussi, parce que tout le monde n'est pas d'accord localement.
Une dernière question, parce que depuis le mois de janvier, les téléspectateurs, les auditeurs l'ont entendu, on a des spots radio, des spots télé, avec une nouvelle philosophie, puisque vous mettez en avant les gestes responsables. On a par exemple un jeune homme, Yanis, au volant, qui reçoit un coup de fil, on voit une petite fille traverser la rue, on s'attend au drame, sauf que Yanis, il ne répond pas à son téléphone et que la petite fille lui dit « Merci Yanis de m'avoir laissé en vie ». C'est un changement de parti pris qui vous semble plus positif et plus fort peut-être ?
Alors, d'autant qu'on a adopté un slogan, un « vivre ensemble ». Ce qu'on a essayé de faire, c'est peut-être d'être un tout petit peu moins, de moins montrer du doigt. C'est « tous responsables » était un slogan un peu, peut-être injonctif. Et on essaye avec ça de dire, au fond, la sécurité routière, c'est notre objet à tous, c'est pour vivre ensemble. Moi, j'aime beaucoup la valeur de la gratitude. C'est-à-dire que quiconque respecte les règles, respecte autrui, et du coup, mérite aussi gratitude. Donc, je crois que cette valeur-là, aujourd'hui, puis on l'a vu dans un univers où le vivre ensemble n'est pas simple, je trouve que finalement, nous passons exactement notre valeur à la sécurité routière, qui est essayer qu'il y ait moins de souffrance et qu'on puisse mieux vivre ensemble, parce que la route, c'est vraiment le partage.
Place aux bons gestes et aux conducteurs responsables. Emmanuel Barbe, merci, délégué interministériel à la sécurité routière, pour vos messages ce soir sur l'antenne d'Europe 1.